Bienvenue si vous nous rejoignez, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit. Géraldine Vosner est toujours avec moi, Perico Legas également, Randall Schwerdorfer aussi et Christophe Barbier évidemment aussi. Bonsoir à tous les quatre et bonsoir à notre invitée Elsa Marcel. Vous êtes avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, spécialiste en droit du travail. Et je précise que vous êtes également membre de Révolution Permanente. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
C'est donc une séquence qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux ce jeudi. Une séquence qui a été tournée dans un magasin Geox, la célèbre enseigne de chaussures. Là, ça s'est passé à Strasbourg. On peut y voir le gérant du magasin refuser une intérimaire parce qu'elle porte un voile. Et il appelle l'agence d'intérim. L'intérimaire filme toute la scène, la diffuse sur les réseaux sociaux. On regarde.
La tenue ne va pas au magasin, en fait elle a un voile et ne souhaite pas l'enlever. De toute façon déjà elle ne compte pas rester et de toute façon...
Non, c'est pas que je compte pas rester, vous me dites de partir.
Vous me permettez, j'ai une cliente au magasin.
Vous changez mes propos, vous déformez mes propos.
Bon bref, en tout cas moi si elle n'a pas la tenue correcte...
Il me dit de ne pas rester et il dit que c'est mes propos à moi.
Parce que là elle est en train de parler avec une cliente, je suis désolé.
Non, je parle avec vous.
Non, alors vous mettez juste sur le côté s'il vous plaît.
Je me mets là. Vous n'êtes pas policier pour me dire là où je dois me mettre.
Excusez-moi, vous allez vous mettre dehors parce que c'est
un lieu. Mes affaires sont en rouge. Je vais attendre que vous finissiez avec ce student.
Vous m'excusez parce que là,
c'est une mission qui me concerne.
Non, alors là, on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos affaires.
Monsieur, je parle calmement. J'attends que vous finissiez parce que je ne veux pas que vous changiez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester.
Je ne change pas les propos.
Vous me dites de partir, c'est différent.
Je ne change pas les propos.
Vous me dites de partir, c'est différent.
Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate.
Voilà, dites ça à ce student. Mais c'est ce pas que c'est dit. Moi qui ne veux pas rester.
Ah, vous m'avez dit que de toute façon, vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est
non,
vous qui me l'avez dit.
Non, pas
bon,
du
bref,
tout.
On va pas y parler.
Pas du tout.
Mais parce que on est en France, madame. C'est dans la loi. Moi, en magasin...
Liberté, égalité, fraternité. Un pays
en magasin,
laïque.
En pays laïque.
Voilà, donc, sur mon contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Sur le contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile.
Moi, j'ai une collègue qui a une
croix, du coup,
elle ne
la montre
pas non plus. Vous êtes en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et ça, je n'accepte pas.
Ce sont vos propos que je vous cite. Si je vous souhaite une excellente journée et de changer de mentalité...
Voilà, la vidéo, évidemment, a créé la polémique. La question, c'est est-ce que Geox, le magasin de chaussures, est-ce que Geox est dans son droit ? Lisa Hadef nous a rejoint. Que dit la loi précisément à ce sujet, Lisa ?
Dans le Code du travail, il est explicitement écrit que nul ne peut apporter de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Autrement dit, si la liberté de pratiquer la religion n'empêche pas d'accomplir les tâches au travail, il n'y a rien dans le Code du travail qui oblige l'intérimaire à enlever son voile. Mais attention, depuis la loi El Khomri de 2016, les entreprises peuvent ajouter au règlement intérieur le principe de neutralité selon certaines conditions. Par exemple, si le port du voile pose un problème en termes d'hygiène ou de sécurité, mais par contre, prétexter la potentielle mauvaise image de l'entreprise à cause de la potentielle réaction des clients qui verraient cette femme voilée n'est pas un motif valable légalement pour faire enlever son voile à la salariée. Pour mieux comprendre cette mécanique. Souvenez-vous de ce cas concret en 2008, l'histoire de la crèche Babylou. Fatima Afif, salariée de la crèche, est licenciée pour faute grave parce qu'elle souhaite porter son voile sur son lieu de travail. Elle dénonce un licenciement abusif, saisit le conseil des prud'hommes qui ne va pas dans son sens et donne raison à l'entreprise. Mais finalement, en 2013, la Cour de cassation annule le licenciement car la crèche est privée, donc la licenciée pour son voile est considérée à ce moment-là comme une discrimination en raison des convictions religieuses. Et revirement en 2014, cette même Cour de cassation juge le licenciement justifié parce que dans le règlement intérieur, il était bien mentionné que la neutralité s'applique tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche.
Merci beaucoup Lisa. Donc Elsa Marcel, si je résume, on a le droit de porter des vêtements religieux sur son lieu de travail, sauf si le port du vêtement religieux est incompatible avec le travail exercé pour des raisons de sécurité, d'hygiène, etc., ou si le principe de neutralité est inscrit dans le règlement intérieur, s'il est explicitement dit dans le règlement intérieur qu'on ne peut pas porter de signes religieux. C'est bien ça ?
Oui, peut-être avant de rentrer dans les détails, puisqu'effectivement il y a l'affaire Babylou qui est un peu le cas paradigmatique, mais il y a des affaires plus récentes qui collent quasi parfaitement à l'affaire de Geox. Et avant de rentrer dans les détails, moi je voudrais quand même dire une chose, c'est que je voudrais envoyer ma solidarité à cet intérimaire. Et je rappelle une chose, c'est que de une... L'intérim, c'est un travail précaire, hein, je veux dire, et je pense que les images auxquelles on assiste sont d'une violence particulière, notamment parce qu'elle est quasiment chassée en fait de la boutique. Elle est obligée d'expliquer qu'elle a ses affaires à l'étage pour pouvoir rester quelques minutes de plus, et que par ailleurs, elle est passée par un processus de recrutement. Il y a une agence d'intérim qui lui a confié une mission, donc son voile, a priori, tout le monde en avait connaissance, et on est ici dans le secteur privé. Vous l'avez évoqué, tout ça c'est encadré et heureusement qu'effectivement c'est pas l'employeur qui peut décider de manière arbitraire de comment s'habillent ses salariés. Pourquoi ? Deux raisons. Effectivement, il y a la loi travail qui a instauré la possibilité d'une clause de neutralité et ça, attention, c'est précis, ça doit être inscrit dans le règlement intérieur, c'est-à-dire que c'est une règle formelle qui, par ailleurs, ne doit pas postuler une interdiction générale et absolue et qui doit viser l'ensemble des salariés de la même manière. Mais surtout, en l'absence d'une clause inscrite dans le règlement intérieur, il y a une affaire qui nous intéresse, c'est parce que Camailleux a été condamné pas plus tard que le 14 avril 2021 pour des faits exactement similaires, c'est-à-dire où l'employeur ou le gérant ou le supérieur hiérarchique a formulé une injonction orale à une salariée de quitter les lieux parce qu'elle avait un voile en prétextant l'image de la société et le simple contact avec le public.
Alors que c'était pas dans le règlement intérieur.
C'était pas dans le règlement intérieur, et par ailleurs, la réalité, règlement intérieur ou pas, hein, même dans le règlement intérieur, c'est-à-dire qu'on restreint pas les libertés fondamentales pour une raison, superficielle, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit proportionné au but recherché, et que par ailleurs, qu'il n'y ait pas d'interdiction générale et absolue. Et comme je le disais, une prétendue attente des clients vis-à-vis d'une exigence physique que devraient adopter en fait certaines vendeuses.
Et donc, concrètement, un employeur qui ne veut pas, pour des raisons de neutralité, donc, que son employé qui est vendeuse et qui est au contact des clients porte le voile, ça, ce n'est pas une raison. Il faut pour appeler ça, qu'il y ait un règlement intérieur.
C'est pas ce que dit le site du service public que j'ai regardé, qui dit qu'un salarié en contact avec la clientèle, on peut lui interdire le port de tout signe manifestant des convictions personnelles, politiques, syndicales, associatives ou religieuses. Donc, dans certains cas, avec toutes les restrictions de règlement intérieur, ça, c'est donc quelque chose que cet employeur pourrait montrer.
Par ailleurs, vous êtes
solidaire de cet employé. En effet, la scène qu'on a vue est assez violente. Est-ce que vous êtes solidaire aussi de l'employeur, non pas pour ce qu'il a dit, mais pour les menaces de mort qu'il a reçues sur les réseaux sociaux à la suite de la publication?
Les menaces de mort, c'est évidemment quelque chose que je dénonce. Je pense que ça n'a pas grand rapport avec la question de l'obligation de neutralité.
On va y revenir sur les menaces de mort.
Je pense que vous vous trompez. Vous avez effectivement évoqué le site du service public.
Oui.
Dans le secteur privé, ça n'a rien à voir.
Non, c'est service public.fr, mais ça parle des entreprises privées.
Je vous assure qu'il faut ouvrir un code du travail. Je vous invite à regarder l'arrêt du 14 avril 2021. Je peux même vous donner le numéro de pourvoi si ça vous intéresse.
Mais
la société Camailleux a été condamnée pour des faits exactement similaires.
Qu'est-ce qui
similaires.
Était dans son règlement Pourquoi intérieur et qu'est-ce qu'on devrait trouver
ça,
dans le règlement intérieur de Geox pour couvrir cet employeur?
Oui, mais ce n'est pas une question de règlement intérieur. En fait, il y a deux niveaux de discussion, si vous voulez. Sur le terrain juridique, même en l'absence de règlement intérieur, si vous voulez formuler une restriction relative aux libertés fondamentales des salariés et en particulier à la liberté de manifester ses opinions religieuses ou tout simplement d'en avoir, il faut une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Or, qu'est-ce que c'est que ça ? La Cour de cassation l'a détaillé, ça n'est certainement pas des attentes supposées des clients entendues comme une atteinte à l'image commerciale de l'entreprise.
Le ça ne peut que pas être un risque de conflit parce que personne voilée sert une personne d'une autre religion.
Heureusement que non, mais vous imaginez.
Vous extrapolez sur une affaire. Moi, j'ai consulté également plusieurs avocats aujourd'hui et qui confirment ce que disait Christophe. Il y a une difficulté supplémentaire, c'est que cette obligation d'un règlement ne s'applique qu'aux entreprises de plus de 10 salariés. Ce qui, vraisemblablement, n'était peut-être pas le cas de ce magasin, auquel cas il reste libre d'embaucher qui il le souhaite. Ce serait à confirmer. C'est vrai qu'il y a un grand flou juridique.
Donc vous dites que si une entreprise qui a moins de 10 salariés ne dépend pas du règlement intérieur.
Non, parce que le règlement intérieur n'est obligatoire que pour des entreprises de plus de 10 salariés, de fait. Donc non, c'est vrai qu'on est peut-être dans un flou juridique. Ce qui est quand même important, et ça je tiens à le rappeler, vous parlez de violence dans la vidéo. Moi, j'ai visionné la vidéo dans son entier. Elle ne se fait pas jeter dehors. Elle refuse de partir. Elle reste. Elle le filme. Il y a beaucoup de tension et la tension est réciproque. Elle est vraiment des deux côtés. Et je trouve, ce qu'on risque de voir, c'est qu'il serait fondé également à porter plainte contre elle. sexuelle pour l'avoir filmée contre son sans son accord et pour
et
avoir
diffusé
cette vidéo sur les réseaux sociaux, sachant pertinemment, dans le contexte actuel, qu'elle lui collait une cible dans le dos. Ça n'est pas anodin. Et ça, c'est grave.
Il a dû fermer sa boutique aujourd'hui.
On ne parle pas de porter un voile pour vendre des chaussures, on parle de vie et de mort.
Alors attendez, la réaction, la précision peut-être de Randall Spierdorfer là-dessus.
On ne peut pas filmer et enregistrer quelqu'un à son insu puis le diffuser. Ce sont deux infractions cumulatives, deux infractions pénales. Donc effectivement, elle peut tout à fait être poursuivie pour ça, parce que c'est filmer une discussion privée, parce que là, il s'agit d'une discussion privée entre elle et un employeur, c'est totalement illégal. Enregistrer quelqu'un à son insu, c'est totalement déloyal et illégal.
Et on risque quoi pour ça?
C'est une infraction pénale. Il me semble que la peine encourue, c'est 1 an d'emprisonnement. Il y a une amende aussi derrière. Il y a rarement des peines de prison prononcées. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la diffusion, ensuite, peut être aussi poursuivie et réprimée pour éviter ce type de choses. Parce que on peut sortir n'importe quoi de son contexte, le diffuser sur les réseaux sociaux et par la suite avoir des conséquences qui sont dramatiques pour la personne. Donc lorsqu'on veut filmer quelqu'un dans une discussion privée ou l'enregistrer, on le prévient. Et si la personne n'est pas d'accord, on n'enregistre pas, on ne filme pas. C'est la loi, c'était une loi du Code des postes et télécommunications qui existe toujours et qui est toujours en vigueur.
Il a reçu beaucoup de commentaires haineux. Il y aurait eu aussi des menaces de mort. Il a été obligé de fermer sa boutique. Aujourd'hui, effectivement, je reprends la question de Christophe Barbier. Est-ce que ça, vous le condamnez aussi?
Oui, évidemment, qu'on profère des menaces de mort à l'encontre d'un individu, ça je le condamne. Mais peut-être pour réagir à ce que vous disiez, en fait, vous comprenez bien que dans le Code du travail, ce serait une aberration, je veux dire, c'est quelque chose qui n'existe pas, hein, qu'on puisse interdire aux femmes voilées de travailler dans le secteur privé. C'est quelque chose qui n'existe pas, parce que la position que vous défendez, elle aboutit à ça en réalité. Et je veux dire, il faut regarder ça dans le détail encore une fois, hein, puisque je veux dire, on a bien discuté de cette question de règlement intérieur, et en l'absence de règlement intérieur, des conditions nécessaires en fait et figées par la jurisprudence. Mais surtout, à mon avis, il y a quelque chose dont on doit discuter ici, parce qu'on peut pas faire comme si c'était un fait isolé. Moi, je pense que le fait qu'il y ait ce type de comportement, c'est-à-dire de manière aussi ouverte, parce que la discrimination au travail, il y en a énormément sur des fondements différents, que ce soit pour des motifs syndicaux, en fonction des opinions religieuses, en raison du sexe, etc. Mais ce qui est nouveau, ou en tout cas ce qui se manifeste dans cette affaire, c'est que ce soit aussi ouvert et aussi affirmé. Mais ça, on ne peut pas l'isoler du reste des politiques en fait, qui sont enclenchées, je veux dire, par le gouvernement et en réalité depuis des décennies, qui présentent le voile en fait, depuis plus de 20 ans comme un problème de société en soi. On voit la manière dont la droite voudrait interdire même à des maires d'accompagner des sorties scolaires. On voit comment, dans la bouche du RN, la présence même du voile dans l'espace public serait un problème. On voit le fait que la France, c'est un des seuls pays à interdire aux athlètes françaises de porter le voile contre l'avis même du comité olympique et contre l'avis de l'ONU. Et on voit en fait à quoi aboutit ce type de politique. Ça a des conséquences concrètes où des jeunes femmes voilées intérimaires qui ont été recrutées par une boîte d'intérim à qui on a affecté une mission puis peuvent se présenter pour embaucher, pour travailler, à qui on dit « casse-toi parce que t'es voilée ».
Mais là, c'est un
et
cas
ça,
particulier
ça pas dans le
d'une,
cadre du travail.
D'une femme
c'est faux de dire que ça existe.
Qui va devoir échanger avec des clients.
Les particuliers de contact avec la clientèle qui est d'ailleurs prévue par les textes.
Mais c'est faux, dans le secteur privé, vous pensez que n'importe quelle vendeuse de n'importe quelle boutique ne peut pas porter le voile.
Ça dépend du règlement.
Je voudrais aller sur le terrain des convictions politiques. Vous avez fait état de votre appartenance à la Révolution permanente,
oui,
qui est le thème de la 4e internationale du Parti communiste de Karl Marx et de Trotsky, c'est-à-dire le communisme.
La 4e internationale et Karl Marx, c'est pas exactement la même période, mais vous êtes plus politique qu'avocate sur ce plateau.
Sur le terrain de la conviction politique.
Il faut connaître un peu les avocats, les avocats sont politiques, je ne suis pas la première ni la dernière.
Je pars du principe que votre appartenance à ce mouvement politique implique des valeurs, des croyances, des convictions sur la liberté, sur la laïcité, sur ce qu'est la République, sur ce qu'est le droit. Est-ce qu'en votre âme et conscience, maître Elsa Marcel, membre de Révolution permanente, vous estimez que le voile, aujourd'hui, qui est un signe religieux, imposé par un dogme religieux, a sa place dans la République française, même à titre privé? Je vous demande votre option personnelle, ensuite il y a la loi. Votre valeur personnelle, vous, qui êtes, on pourrait dire, Trotsky, c'est un bien grand mot, mais qui défendez des valeurs avec courage, sur des principes sociaux, sur des principes politiques. Il y a des militants de votre mouvance politique qui ont été tués pour leurs idées. Vous trouvez aujourd'hui qu'une femme en France qui porte le voile est un signe de liberté ou est un signe de soumission à l'islam? Je voudrais juste votre avis personnel.
Moi, vous savez, je suis pour la liberté des femmes de décider, et pas pour que ce soit vous qui imposiez aux femmes de savoir comment elles doivent s'habiller,
si elles doivent
porter un voile ou une jupe.
Quand savez-vous qu'elles ont décidé?
Vous m'avez demandé, est-ce que porter un voile est compatible avec les principes de la République? Et je veux dire, vous savez ce que c'est que la laïcité en France? Ça n'a rien à voir avec le détournement qu'on en fait. C'est la possibilité de, une, de séparer les cultes et l'État, et de deux, de traiter toutes les religions de manière
égalitaire. Et s'ils veulent être imposés par quelqu'un d'autre?
Moi, je suis pour que les femmes, elles soient actrices de leur propre émancipation.
Ah bon,
ce soit ni vous qui décidez
donc,
pour
donc
eux,
vous acceptez
certainement par vous, certainement pas.
Mais moi, je n'interviens rien.
Il y a des femmes qui portent le voile
je veux
parce qu'elles
femme.
En font le choix.
Celles qui n'en font pas le choix, qu'est-ce qu'on fait avec celles qui n'en font pas le choix?
C'est pour qu'on s'organise et qu'elles se défendent. Mais révolution. C'est pas vous qui allez le faire.
Ah non, non. Révolution. Je vous pose la question à la militante et à l'avocate.
Pour prolonger la question, révolution permanente, scission du NPA, a soutenu la candidature d'Anas Kazib à la présidentielle 2022. Le 7 octobre, il a relayé les attaques du Hamas, des images filmées par le Hamas, en se réjouissant de voir le peuple palestinien attaquer cet État sanguinaire qu'est Israël. Vous êtes solidaire aussi de cela et vous considérez qu'un soutien à Anas Kazib ne biaise pas votre jugement sur cette affaire-là?
Alors là, si vous voulez, la question, elle mélange plein de problèmes.
Ah bah c'est un problème de voile.
Alors là, non, mais là, c'est vraiment la salade. Franchement, c'est ridicule. Je vais vous répondre point par point parce qu'il faut mettre un peu de méthode dans tout ça quand même. Est-ce que je suis solidaire d'Anas Kazib qui est criminalisé pour son soutien à la Palestine? Oui.
Pas à la Palestine,
enfin, oui.
Au Hamas. Aux attaques du 7 octobre, terroristes, aux viols de femmes, aux assassinats, aux meurtres d'enfants. Il est solidaire de cela et vous êtes solidaire de lui.
Si
c'est bien
voulez,
ça que j'ai
moi,
compris.
Écoutez, monsieur Barbier,
c'est bien ça que j'ai compris.
On va quand même revenir sur Géox.
Moi, monsieur Barbier, si vous voulez, je suis avocate. J'ai des procès contre l'apologie du terrorisme. J'en ai plaidé une dizaine depuis maintenant. Donc, je sais exactement la manière dont ça se passe. Moi, à aucun moment, Anas Kazib, je le connais, évidemment. C'est pas du tout un soutien du Hamas. En revanche, que lui, il dénonce effectivement un état d'apartheid, la colonisation, etc. Ça, il n'y a pas de débat.
Mmh.
Maintenant,
en relayant
si vous êtes
les images de l'attaque,
je ne sais pas si vous êtes procureur ou policier.
Non, mais j'interroge.
Mais je ne sais pas si vous êtes
procureur ou
policier.
Vous avez le droit d'être solidaire de lui.
Moi, vous faites bien de faire le lien parce que ça me permet de discuter de quelque chose. Effectivement, il y a une articulation entre ce que je dénonçais, c'est-à-dire la criminalisation permanente de la population musulmane en France, à laquelle on assiste depuis des années, qui se manifeste encore par la manière dont on a interdit aux jeunes femmes à la rentrée de porter l'abaya, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, parce qu'elles portaient un kimono, qu'elles étaient musulmanes ou assimilées, on leur a dit non, ça c'est pas un kimono, c'est un abaya, tu rentres chez toi. L'articulation entre ça et la criminalisation absolument considérable que subissent des centaines de personnes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des représentants de la CGT, je pense à Jean-Paul Dolezco, il y a des militants politiques, je pense à des militants du NPA et d'autres
allez,
organisations.
Allez, on s'éloigne les amis.
Il y a des ouais. députés de la
J'aimerais
France
J'aimerais qu'on revienne
soumise.
Sur le sujet
oui,
ce soir.
Oui, et je reviens et je clôt sur ça, mais je suis obligée de répondre à la question qu'on m'a posée. Moi, évidemment, comme militante, mais aussi comme avocate, parce que les avocats, c'est des gens qui sont là pour défendre les libertés publiques, qui sont là pour défendre les libertés démocratiques, qui sont là pour défendre la liberté d'expression. Évidemment que je suis solidaire des jeunes femmes qui se battent pour le droit
c'est
de s'habiller comme elles veulent et pour les gens qui se battent pour le droit de défendre leurs opinions politiques.
L'abaya à l'école ou le voile dans le cadre des règlements intérieurs d'entreprise, est-ce que vous diriez que vous êtes pour ce qu'on appelle les accommodements raisonnables avec les revendications des musulmans et de l'islam politique qui veut autoriser le voile à l'école et
Mais voilà. Je ne sais pas de quel islam politique vous parlez. Est-ce que vous êtes conscient que la France, c'est une exception internationale? Est-ce que vous êtes conscient?
Ah, bah oui, j'en suis conscient.
Est-ce que vous êtes conscient qu'au Royaume-Uni,
j'en suis fier.
Ils nous regardent. Ah oui, donc l'islamisme politique.
Avec des gens qui meurent ou s'est opposé à l'islam.
Règne au Royaume-Uni.
Mais ça nous évite les manifestations de haine qu'on a vues au Royaume-Uni. En tout cas, ça les limite.
Ah oui, d'accord.
Ils sont protégés.
Les professeurs sont décapités.
C'est l'héritage de Hugo, c'est l'héritage de Zola.
Attendez, les amis, ça part dans tous les sens, là. On va remettre un peu d'ordre. Géraldine Vosner.
Ce qui m'interpelle dans cette histoire aujourd'hui, c'est qu'on a toujours le même schéma politique et militant. C'est une affaire particulière qui a pas eu il y a une confrontation entre un potentiel employeur, la personne qu'on lui envoie, il s'attendait pas à la trouver, c'est quelque chose qui aurait dû se régler, ce serait très bien réglé dans le cadre privé si elle souhaitait porter plainte, etc. Non, elle choisit de le filmer et elle choisit de le diffuser sur les réseaux sociaux. Ce faisant, elle sait qui va se passer exactement cela. On va refaire un énième débat, s'indigner, parler. Et c'est une manière d'imposer toujours un peu plus ces marques et ces modes de vie. Si vous voulez, moi, je comprends votre combat pour la défense du voile. Moi, j'en ai un, c'est de permettre aux femmes d'Iran ou d'Afghanistan, par exemple, de pouvoir le retirer, le voile, si elles le souhaitent, si elles le désirent. Voilà, chacun ses combats. Le vôtre, il est qu'on puisse le porter en France pour vendre des chaussures. C'est pas le mien. Et je pense pas que ça doive être un débat national tous les jours de l'année.
Oui, enfin, c'est quand même pas moi qui décide des lignes éditoriales des grands médias comme celui de BFM TV.
Vosner m'enlève les mots de la bouche. Effectivement, je suis tout à fait en phase avec ce que vous venez de dire, Géraldine. Ça me fatigue aussi, en fait, ce genre d'histoire. Je comprends même pas pourquoi on parle de ça. Bah après, je vois pas le problème parce qu'il y a un commerçant qui est dans.
Les amis, ce soir, c'est un peu chaotique. On écoute Randall Serdan, que c'est un problème
qu'elle aurait pu gérer tout simplement en allant soit en saisissant le conseil des prud'hommes, soit en allant déposer une plainte pénale pour peu importe, incitation à la haine ou ce qu'elle veut, et qui regardait pas du tout le public. Et je pense qu'on est en train de stigmatiser des comportements qui n'existent que dans ce magasin-là, à ce moment-là, et qui ne sont pas représentatifs de ce qui se passe en France. La France est quand même un pays hyper tolérant, hyper accueillant, voire même trop, hyper généreux. Et on a l'impression que tous les Français sont des gros racistes. Là, ne supportent pas les musulmans.
Non, mais je vais vous dire une chose. Du coup, non, mais c'est les droits de l'homme présidés par le Maroc.
En termes de tolérance. En termes de tolérance.
On met les homosexuels en prison.
Vous parle du comité olympique et je vous parle de l'ONU et la haut-commissaire qui explique. Qui explique que le fait que les athlètes puissent pas.
Est-ce qu'on peut écouter Randall Serdan?
En termes de tolérance, quand vous allez dans un pays musulman, quand vous êtes une femme et que vous allez dans un restaurant, et que vous êtes, par exemple, en maillot de bain, et que votre tenue ne convient pas, on vous laisse pas rentrer. Voire on vous met dehors. Et ça ne pose aucun problème à personne. Et vous pouvez le mettre sur les réseaux sociaux, vous allez faire rire tout le monde. Voilà. Et je trouve qu'en France, on accepte tout, on subit tout, et en plus, on nous reproche tout. Je trouve qu'il y a une ingratitude phénoménale. On est un État laïque, on a un comportement, je trouve, en France, relativement exemplaire, extrêmement accueillant, et on est constamment en train de reprocher aux Français des choses.
Mais en revanche, c'est normal qu'on s'interroge sur ce que la loi autorise ou pas. Si une femme voilée a le droit de travailler dans un magasin.
Ce qui s'est passé chez Geox ne justifie pas.
Attendez, s'il vous plaît.
C'est pas la discussion de la clause de neutralité, de ce que le dit Code du travail. Comment est-ce que des femmes peuvent travailler ou pas?
Ça me choque plus que la petite Samara, elle a été massacrée parce qu'elle mettait pas le voile et parce qu'il y en a qui l'a traitée de putain parce qu'elle s'habillait pas de façon convenable pour elle. Voilà, moi ça me choque.
Le gamin de Richard Dillon, parce qu'il avait une relation.
Que Sem Sedin se soit fait massacrer parce qu'il draguait une jeune fille musulmane, ça me choque.
Mais quel est le rapport avec cette jeune femme intérimaire qui s'était
volée? Qu'elle a diffusé des images.
Le rapport est l'instrumentalisation des gens comme vous, en fait.
Qui peuvent provoquer la mort de ce monsieur.
Une affaire qui ne mérite pas.
Non mais alors, je pense qu'il faut remettre
un dernier mot là-dessus, Elsa Marcel.
Non mais la réalité, c'est que pour moi, je suis un peu estomaquée qu'en fait on fasse l'espèce de bingo entre Samara, l'ensemble, en mettant tout ça dans un melting pot, alors que d'une part, enfin, je veux dire, c'est vous qui procédez à une instrumentalisation abominable. Enfin, la mère de Samara, c'est elle-même délimitée en fait des interprétations qui étaient formulées de cette manière-là.
Et à chercher à mettre un terme à cette offensive-là, sous les conseils de qui, et surtout,
alors ça, c'est à vous de me le dire, vu que visiblement vous êtes informé. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, on vient ici pour discuter et pour m'interroger sur ce que dit le Code du travail. Oui. Je suis désolée qu'il ne vous plaise pas. Et je vous invite vraiment à lire l'affaire Camailleux, qui est l'arrêt le plus récent à la matière. Je ne sais pas si vous en avez trouvé un
plus récent, mais
ça m'intéresse à le lire. C'est celui du 14 avril 2021 et c'est exactement l'affaire Geox. Enfin, vous lirez les faits, c'est extrêmement similaire. Et que vous arriviez à en faire une histoire.
Que pensez-vous de la diffusion de l'image?
Alors qu'on est face à une situation ouvertement discriminatoire et que vous arriviez à en faire un procès de la religion musulmane.
On verra si c'est ouvertement discriminatoire.
Parce que c'est quand même complexe, ce point de droit du travail. Il est très complexe et il y a des interprétations différentes. On verra ce que disent les tribunaux s'ils sont saisis. Ouais. Mais il y a deux affaires. Il y a l'affaire de cette discrimination potentielle et j'espère qu'elle sera jugée et éclaircie. Et puis il y a l'affaire de la mise en pâture de cet homme par une femme qui va déclencher une mire islamiste. Vous ne pouvez pas nier ça.
Qu'un homme reçoive des menaces de mort, je veux dire, oui, c'est inacceptable.
Il ne faut pas recevoir des menaces de mort. Il ne faut pas diffuser des images qui provoquent ça. Elle a donc commis une faute.
Surtout, moi, je suis un peu estomaquée par la manière dont vous arrivez même pas à prendre une position sur une question qui est pourtant en fait tranchée et claire. Et c'est-à-dire que vous arrivez à vous formuler.
La question de Barbier est très claire. Est-ce que vous le condamnez? Est-ce que c'est une faute de sa part d'avoir publié ces images?
Mais par ailleurs, les images que par ailleurs vous m'avez envoyées pour préparer l'émission, c'est un compte Twitter anonyme. Donc je ne sais même pas quelle a été sa démarche à elle. Allez. À aucun moment il y a son nom qui elle diffuse ces
images. Samuel Paty est décapité à partir d'une vidéo. C'est une vidéo qui déclenche la mort de Samuel Paty. Il faut donc faire attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux.
Évidemment. Je veux dire à partir du principe que du coup c'est impossible de défendre cette jeune femme qui a subi une discrimination.
Et on verra.
Je trouve ça indécis.
Et on verra ce que dit la justice.
Ça va être compliqué, c'est vrai.
Geox doit publier d'ailleurs un communiqué dans les prochaines heures. Il l'a fait savoir. Merci beaucoup, Elsa Marcel,
d'être venue
pour ce débat très animé ce soir. Merci à vous.